Je vous invite à la prière. Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante et puissante. Veuille ouvrir notre cœur, éclairer notre intelligence et nourrir notre âme. Donne-nous de recevoir ta parole avec humilité, avec sobriété, avec foi, et de la mettre en pratique. Et tout cela, nous demandons au nom précieux de Jésus. Amen. Alors, quelle joie pour moi d'être avec vous ce matin. Françoise, ma femme, elle vient de cette région et souvent passe nos vacances à la Favette et de temps en temps vient dans votre église pour vous dire un petit bonjour. Donc, nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. Notre thème ce matin, c'est la Sainte Cène. Ce mot Sainte Cène veut dire tout simplement repas. Et à la fin de la prédication, nous allons prendre le repas de Sainte Cène ensemble. Dans la Bible, les paraboles et les discours de Jésus occupent une place importante. Par exemple, dans l'évangile de Luc, l'évangile de Luc est structuré autour de 8 repas. C'est Jésus en personne et en présence de ses disciples avant d'aller à la croix va inaugurer la Sainte Cène. Selon sa culture, son arrière-plan, son éducation, on utilise des termes différents pour la Sainte Cène. On parle du table du Seigneur, la fraction du pain. En anglais, the breaking of bread veut dire rompre le pain. Ou bien, nos amis catholiques, ils utilisent donc le terme l'eucharistie, qui veut dire tout simplement action de grâce. Et à la fin de la prédication, il y aura un moment d'action de grâce autour donc du pain et du vin. Pendant des siècles, en passant par des pères de l'Église que vous voyez ici, donc Origène, Chrysostome, Saint-Augustin, tout à fait en haut, et puis des réformateurs, Farel, John Calvin, Théodore de Bèze et John Knox, il ne faut pas oublier, celui qui est à droite, c'est un Écossais, un réformateur écossais. Et sa vision, c'est d'implanter en Écosse, dans chaque village, dans chaque ville, une église et à côté, une école. Et si vous allez donc aujourd'hui, et cette photo, je l'ai prise à Genève, dans le jardin au centre de la ville de Genève. Si vous allez à Genève, vous allez voir donc ces statues de ces grands bonhommes, dont les réformateurs, chacun tient une Bible. Si vous allez en Écosse aujourd'hui, vous allez trouver dans chaque ville, dans chaque village, donc une église et à côté une école pour transmettre l'évangile de génération en génération. Donc pendant ces siècles, en passant par des pères de l'Église, les réformateurs, des hommes de réveil, des grands théologiens, certains que vous voyez ici, donc à gauche, c'est Henri Blocher, peut-être vous avez entendu, c'est un théologien contemporain, et puis John Stott, c'est un grand théologien contemporain, donc anglais. Et tous ces hommes, à travers les siècles, ils ont eu des grands débats, des discussions, des conciles, des synodes concernant la Sainte Cène. Il y avait des pensées différentes. Il y a certaines personnes qui pensaient que Jésus était présent physiquement dans le pain et dans le vin. Et puis d'autres qui considèrent que la Sainte Cène est uniquement donc un symbole pour nous faire penser donc à Jésus. L'important, c'est non de savoir ce que disent les autres, mais l'important, c'est de savoir qu'est-ce que dit la Bible. De savoir qu'est-ce que moi je crois concernant la Sainte Cène. Donc je vous propose 4 points. Premier point, ce qu'il faut comprendre. Premier point. Deuxième point, ce qu'il faut comprendre avant de prendre la Sainte Cène. On va prendre la Sainte Cène, mais avant de prendre la Sainte Cène, il y a des choses qu'il faut comprendre. Troisième point, ce qui se passe pendant la Sainte Cène. Lorsqu'on va prendre la Sainte Cène, il y a quelque chose dans le monde spirituel qui va se passer au milieu de nous. Et puis, dernier point, ce qui doit changer dans ma vie après avoir pris donc la Sainte-Seine. Vous savez que les Français sont des champions du monde en ce qui concerne la gastronomie et le repas. Vous le savez, ici, c'est à la Favette, c'est pas loin d'ici, c'est un repas de famille. Je crois que c'était le jour de bon anniversaire, sauf erreur. On aime bien aller là-bas. Vous le savez peut-être aussi, si vous allez sur Internet, que les Français y consacrent 4 ans ou 6 ans de leur vie à manger, 24 heures sur 24. Et dans les Cévennes, à la Favette, Françoise, avec ses frères et sœurs, ils ont une maison de famille, un lieu de rencontre de toute la famille, au moins une fois par an. Les mères, les pères, les frères, les sœurs, les enfants, les petits-enfants, les bébés, les grands-parents, et parfois l'arrière-grand-parent, les cousins, les petits-cousins, et bien sûr, la discussion, ça va bon train. Vous savez, en Écosse, on passe à peu près un quart d'heure à table, et c'est fini le repas, mais lorsqu'on est à la Favette, ça ne termine pas un quart d'heure, c'est quelques heures, ça dure. Mais qu'est-ce qu'on est content d'être ensemble. Et le point culminant, lorsqu'on arrive là-bas, les enfants, ils sont un peu partout, et qu'est-ce qu'on crie ? À table ! Et tout le monde vient ensemble, autour de la table. C'est formidable. De toutes les directions. Et la discussion va bon train, les sujets ne manquent pas, les nouvelles des uns des autres, les projets, les mariages, les voyages, les naissances, la théologie, la politique, les résultats de matchs de foot, l'actualité, le Tour de France, et j'en passe. Ça y va, hein, la discussion. L'important, ce n'est pas le repas, ce qu'on va manger, mais l'important, c'est d'être ensemble, à table. Et même dans l'Église, ce qui est important, c'est d'être ensemble autour de l'essentiel. De partager nos émotions, nos expériences, et de se laisser toucher par la puissance du Saint-Esprit pendant ce repas. Ah, des souvenirs précieux de la Favette. Mais il y a quelque chose qui est meilleur, c'est lorsque Jésus il va nous parler de ce repas. Et c'est l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 29, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé et enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Qui est déjà allé voir le Tour Eiffel à Paris? Qui déjà aimerait vous voir? Voilà. Vous êtes tout fiers, hein? Et vous savez, si vous allez là-bas à la Tour Eiffel, vous allez rencontrer donc des touristes, bien sûr, et vous allez remarquer multitude de personnes qui vendent des tours Eiffel, hein, en miniature, à tous les touristes. J'en ai acheté, moi. Et j'ai même mis dans ma valise, quand je suis venu... C'est trop fort. Aïe. Il n'entend rien maintenant. Ça va maintenant? Dites-moi. Et vous savez ce qu'ils font les touristes? Ils vont mettre ça dans la valise, ils rentrent chez eux à la maison, et puis ils invitent toute la famille, les voisins, ils mettent sous la table Tour Eiffel, en miniature, et ils vont raconter et en long en large la France, tout ce qu'ils ont vu et comme ils sont les Français. Hein? C'est intéressant ça d'écouter les autres. Hein? Et ça ne dure pas 5 minutes, mais ils en parlent. C'est un souvenir. Et Jésus, il dit dans ses textes, « Ceci vous faites en mémoire de moi, en souvenir de moi. » Et ce que nous allons faire, nous allons mettre le pain et le vin au centre et on va évoquer tout ce que Jésus il a fait et pour nous. Donc Jésus, il utilise le pain et le vin, c'est quelque chose qu'on peut toucher. C'est quelque chose de visible, et même on va goûter le pain et le vin, pour que ce soit vraiment quelque chose d'émotionnel pour chacun d'entre nous, de réel. On va penser au corps de Jésus, le pain qui rappelle le corps de Jésus qui était brisé, et aussi son sang qui était versé pour nous à la croix. Il y a un grand théologien anglais, c'est John Stott, qui a écrit un livre sur dont la croix de Jésus-Christ, que je vous recommande vivement, nous fait remarquer que lorsqu'on parle de la mort de Jésus dans la Bible, dans le Nouveau Testament, tout de suite on parle de la résurrection. Ils sont étroitement liés, la mort et la résurrection. Ils sont associés l'un avec l'autre. Ils sont rarement mentionnés l'une sans l'autre. C'est deux faces d'une seule pièce, la mort et la résurrection. Ils vont ensemble. Dans l'évangile de Marc, trois fois, c'est Jésus qui dit qu'il était mort, mais il ajoute qu'il va ressusciter le troisième jour. Dans l'évangile de Jean, Jésus il dit qu'il va donner sa vie, mais il va le reprendre par la suite. Dans le livre des Actes, il dit « Vous l'avez fait mourir en le clouant sur la croix, mais Dieu l'a ressuscité des morts. » Et dans l'Apocalypse, il est dit « Je suis vivant, j'étais mort. » Et moi aussi, je suis vivant au siècle des siècles. Donc, une application pratique, lorsqu'on va célébrer la Sainte Cène, ça doit être un moment de joie, parce que Jésus, il est ressuscité. La mort et la résurrection sont la source et le centre de l'Évangile. C'est la clé de voûte de toute la doctrine chrétienne. Ôter la résurrection de Jésus et tout s'écroule. Quelqu'un a posé la question à Billy Graham, comment savez-vous que Jésus il est vivant? Et Billy Graham a dit, je lui ai parlé ce matin. Il m'a parlé ce matin. Jésus, il est vivant. N'est-ce pas une bonne nouvelle qu'il nous faut proclamer avec force, par le chant, avec joie, avec ferveur, par notre attitude, par notre témoignage? Alors, quelques points concernant la Sainte Cène. Premier point, lorsqu'on va prendre la Sainte Cène, il faut savoir, la croix, c'est le mouvement de Dieu vers nous. C'est Dieu qui vient vers nous. Et pas le contraire. Ce n'est pas nous qui allons vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers nous. Christ est mort pour nous, alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? Dieu vient vers toi. N'est-ce pas formidable lorsqu'on est à l'église, quand les gens viennent vers nous? Parfois, je fais un petit test dans les églises, quand je visite, je vais dans un coin pour savoir si les gens viennent vers moi. C'est un très bon test. Je ne vais pas le faire ce matin. Hein? Vous êtes contents? Hein? Mais vous savez, c'est important d'accueillir les autres, c'est pas vrai? Et de s'intéresser aux autres. Et qu'est-ce que je suis content quand les autres ils viennent vers moi? Quand les gens me téléphonent pour prendre de mes nouvelles? Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Dieu, il vient de manière particulière vers toi pour te parler ce matin. Lorsqu'on va, ce n'est pas toi qui viens vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers toi. Il nous donne non seulement des paroles, mais Dieu, il nous donne des actes. Et ce que les gens, ils veulent aujourd'hui, ils ont marre des paroles, ils veulent des actes. Eh bien, Dieu, il vient vers toi ce matin. Jésus, il est mort pour nous. Et on peut dire que l'histoire de la Bible, c'est Dieu qui fait un élan pour venir vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers l'homme. Et Dieu, il va donner un jardin à Adam et Ève. Il va donner des leaders, des prophètes, des héros, des juges. Il donne sa parole, son esprit. Il donne son Fils. On a déjà cité ce matin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aimerais vous dire ce matin, si vous ne connaissez pas Dieu, Dieu il vient vers toi pour te changer, pour faire de toi une nouvelle personne, et tu peux le recevoir avant de prendre la Sainte Cène. Deuxième point, Dieu il vient vers nous non seulement pour nous montrer son amour, n'est-ce pas? La meilleure preuve de l'amour de Dieu, que Jésus est mort pour nous, mais aussi pour nous rendre justes devant Dieu. La croix, c'est un mouvement de Dieu vers nous, mais aussi pour nous rendre justes devant Dieu. La croix, c'est l'acte par lequel le Dieu, trois fois saint, déclare le pécheur croyant juste et acceptable devant lui. Non à la culpabilité! Non à la condamnation. Le diable lui dit, toi tu ne vaux rien. Mais Dieu dit, moi je t'aime. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et non seulement cela, non seulement Dieu il vient vers nous, Non, si on lui montre son amour, mais dit rien peut nous séparer de l'amour de Christ. Romains 8, verset 34. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni l'épée, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dieu, il te déclare juste devant Dieu. Ce n'est pas merveilleux? Vous n'êtes pas content? C'est une bonne nouvelle. Troisième point, la croix est le moyen pour avoir un libre accès à Dieu. La croix est le moyen d'avoir un libre accès à Dieu. Vous savez, autrefois dans l'Ancien Testament, lorsqu'on a fait un péché, pour pouvoir accéder à Dieu, on devait aller chercher une chèvre, ou même une vache, ou bien un pigeon pour demander pardon. Hein? Il n'y a plus de tout ça. Jésus, il est mort pour nos péchés. C'est lui, Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et nous avons donc un libre accès. J'aime beaucoup ce verset. Nous avons au moyen du sang de Jésus, la croix, un libre entrée dans la présence de Dieu. Jésus, on a frayé un chemin nouveau, une route nouvelle et vivante. C'est pas merveilleux ça? Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être devant une barrière ou devant une porte fermée. Ça vous est déjà arrivé? On n'arrive pas à ouvrir la porte. Il y a 15 jours, je suis allé dans la salle de bain et sans le vouloir, je me suis enfermé dans la salle de bain et je n'arrivais pas à ouvrir la porte. Et ma femme n'était pas dans la maison. Et j'ai passé une heure et demie dans la salle de bain. Et j'ai pu, mais ce n'est pas rigolo, hein? Et j'ai dû démonter donc le poignet depuis l'intérieur, mais ça m'a pris du temps. Maintenant, je ne ferme plus la porte. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est content de sortir, hein? Et vous savez qu'avant, on ne pouvait pas avoir accès à Dieu. Il y avait une porte. Il y avait une porte. Et vous savez, il y a quelques années, mon fils il a acheté pour moi un petit boîtier pour mettre dans ma voiture à l'intérieur sur le pare-brise pour prendre l'autoroute. Et un jour, je suis allé chercher ma mère à l'aéroport à Lyon. Elle monte dans ma voiture. Elle dit, mais comment ça se fait qu'en France, on doit payer l'autoroute? Alors, il dit, tu vas voir. Alors, on allait prendre le péage et il y avait donc 8 queues, des voitures, beaucoup de voitures, c'était pendant l'été. Et puis, il y avait une voie là, il n'y avait personne, c'était marqué libre. Donc, je fonçais là-dedans et vous savez quoi? Quand je me suis approché de la barrière s'est levée tout seul et ma mère me dit, est-ce que c'est parce que je suis dans ta voiture que c'est gratuit? Il dit non, parce que déjà débité de ma carte bleue, tu me payais tout de suite si tu veux. Et vous savez que lorsque nous nous approchons de Dieu, parfois il y a des barrières, des accusations. Mais Jésus, il a payé tout le prix. Et ça coûtait cher. Il a donné sa vie de sa personne pour que nous puissions avoir un libre accès. Il n'y a plus de barrières. Un libre accès à Dieu. Il n'y a plus de sacrifice. Jésus, il a tout fait à la croix. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Regardez bien, vous allez voir à l'écran, donc, ce contraste, ce que nous étions avant la croix et ce qui s'est passé après. Regardez bien, nous étions morts, séparés de Dieu. Nous étions éloignés de Dieu. Nous étions enfants de colère. Nous étions des étrangers, des SDF. Des gens du dehors, sans espoir, avant la croix, avant que Jésus vienne dans notre vie. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on devient chrétien? Eh bien, Dieu, il a fait de nous des êtres vivants jusqu'à dans l'éternité. On est rapprochés de Dieu, en contact avec Dieu, en paix avec Dieu. Nous sommes des concitoyens des saints, fils et filles intégrés dans une famille. On revient à la famille. Dieu, il ne connaît pas, et la Bible ne connaît pas les chrétiens sur les terres. Il nous a placés dans une famille pour grandir les uns avec les autres. Donc tout cela demande une reconnaissance de notre cœur, de nos actions, de nos chants et aussi de de bénir Dieu pour tout ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous à la croix. Quatrième point concernant la croix. À la croix, il y a une triple victoire. Victoire sur la mort, victoire sur le péché, victoire sur le diable. Et lors d'une lecture cursive du Nouveau Testament, nous sommes frappés de voir les chrétiens dans une ambiance de persécution féroce. Et même malgré cette persécution, ils restent confiants dans la puissance de l'œuvre de Jésus à la croix. C'est John Stott dans son livre qui dit « Cette ambiance de joie, cette audace des chrétiens, ça fait un contraste avec une piété fade du christianisme contemporain. Le premier chrétien n'était pas enclin au défaitisme. Leur vie, leur attitude, leur acte étaient imprégnés d'espoir, d'audace et de victoire. Nous pouvons rendre grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous ne sommes pas seulement vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. On peut dire « Alléluia !» Même si on n'est pas charismatique, hein, on peut le dire ensemble. « Alléluia !» Parce qu'il a vaincu la mort, le péché et aussi le diable à la croix. Et l'apôtre Paul, il va confronter la mort. Il va poser une question pertinente directement à la mort. « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Il répond à cette question. La victoire est à nous. Dieu nous l'a donnée par Jésus qui nous a délivrés de la mort. Donc, non la peur, même face à la mort. Jésus, il a vaincu la mort. Il a brisé la puissance de la mort. C'est Alfred Kuhn qui le dit dans 2 Timothée 1, verset 10. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Non la peur. Et lorsqu'on va prendre la Sainte Cène, on va mettre ces vérités sur notre cœur. Et quand est-ce que tout cela a eu lieu, cette victoire sur la mort et sur le péché? À quel moment? C'était à la croix. Jésus, il va dire, tout est accompli. Et il est précisé, à ce moment précis, dans l'évangile de Matthieu, à ce moment précis, il y avait des ténèbres sur toute la terre. Il y a eu un tremblement de terre. Les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints enterrés étaient ressuscités. Et la voile du temple qui faisait 20 mètres d'eau, ça peut prendre même hauteur jusqu'au plafond, regardez bien. Il y avait une séparation entre Dieu et les hommes, une grande voile qui était là. Et je lis dans un commentaire, ça faisait à peu près 2 centimètres d'épaisseur. Et vous savez, quand Jésus écrit... Tout accompli, c'est tombé. Il y avait un bruit fracassant. Et on avait une libre entrée avec Dieu, grâce à Jésus, à la croix, qui nous donne sa victoire. Donc, victoire sur le péché, victoire sur la mort, et victoire sur le diable. Je n'ai pas une voiture 4x4, mais j'ai un verset 4x4. C'est 1 Jean 4x4. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas formidable? 1 Jean 4:4. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est Jésus qui dit dans Luc 10:18. C'est une parole prophétique. C'est Jésus qui dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et le Nouveau Testament affirme sans gêne ni restriction d'aucune sorte que c'est la croix de Jésus. C'est là où il a désarmé Satan, les principautés et les puissances. Il a écrasé le diable et Jésus, il est vainqueur. Il a démasqué puis désarmé les autorités et les dominations de l'enfer. Il a exposé la faiblesse devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal à la croix. Donc, non aux peurs du diable, non aux peurs du péché, non aux peurs de la mort. La pratique de tout ça, application pratique. Aujourd'hui, demain, cette semaine, est-ce que vous avez la victoire sur le péché, oui ou non? Dites pas oui tout de suite. Hein? Parce qu'il faut être armé jusqu'aux dents. Il serait impossible pour nous de combattre et de vaincre le diable. Nous n'avons ni l'adresse, ni la puissance, ni la force pour le faire. Il n'est même pas nécessaire d'essayer, puisque Jésus a déjà livré ce combat et Jésus, il est victorieux sur le péché. Donc il y a une tension entre la théologie et la réalité. Comment ça se passe dans ma vie de tous les jours quand je suis confronté, par exemple, à la tentation? Nous, les hommes, souvent, on peut être tentés par la pornographie. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes tout seul devant votre ordinateur? Tous les autres sont couchés et vous ouvrez votre ordinateur, vous commencez à regarder des choses. Comment résister à ça? Je vous pose la question. Comment faites-vous? Moi, je vais vous dire comment je fais, moi. D'abord, je ne regarde pas et je demande à Jésus de s'en occuper. Ça, c'est formidable. Et quand j'étais en Écosse, au lycée, il y avait beaucoup de racailles. Vous savez ce que c'est du racaille? Hein? Des gens qui cherchaient la bagarre. Hein? Et mon cousin, il a même fait des cours de... C'est un boxeur, il a fait des cours de boxe. C'est un athlète aussi. Il était connu dans toute l'école. Et souvent, moi, j'étais un peu menacé par des gens qui disaient, ils voulaient faire la bagarre avec moi. Et vous savez ce que je disais? Est-ce que vous connaissez mon cousin Guillaume? Vous savez ce qui s'est passé? Ils sont partis en courant. Pourquoi? Derrière le nom, il y a l'œuvre. Et derrière le nom de Jésus, Jésus nous demande de prêcher en son nom, de baptiser en son nom, de prier en son nom, car derrière le nom de Jésus, il y a l'autorité, la puissance et la victoire. Et mon cousin, et c'est arrivé souvent, heureusement, il était dans ma classe, hein, parfois je t'embêtais encore par quelqu'un d'autre, et j'allais voir mon cousin. Et vous savez ce qu'il m'a dit, mon cousin? Je m'en occupe. C'est beau ça, je m'en occupe. Et Jésus, il s'est occupé de notre péché à la croix. Je termine. C'est Martin Luther qui dit ceci, « Je vis chaque jour si Christ était mort hier, était vivant aujourd'hui et qui revenait donc demain. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous annonçons que Jésus va revenir. Quelle perspective pour nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire avant de prendre la Sainte Cène? Eh bien, on va revenir peut-être celui juste avant, le slide d'avant, voilà. Il faut d'abord s'examiner soi-même. Il ne faut pas prendre la Sainte Cène trop vite. Il faut s'examiner soi-même. Il faut laisser Dieu sonder notre cœur. Il faut aussi demander pardon si on a fait du mal à quelqu'un. Eh bien, il faut demander pardon à Dieu. Vous connaissez le psaume 51. Je donnais comme titre la douche intérieure. Prendre la douche extérieure, mais prendre la douche intérieure. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Lave-moi complètement de ma faute, de mon péché. Purifie-moi. Crée en moi un cœur pur. Rends-moi la joie de mon salut. Fais-moi vibrer d'allégresse et donne-moi un esprit prompt à obéir. Donc, il faut demander pardon avant de prendre la Sainte Cène. S'il a dit du mal sur d'autres, eh bien, il faut demander pardon aussi. Il faut pardonner aussi. Pardonner afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Lorsque j'étais en train de préparer cette prédication, pendant une semaine d'ailleurs, ça m'a pris à peu près une semaine pour préparer cette prédication, j'avais presque terminé. Et vous savez que c'est un peu compliqué lorsqu'on lit l'histoire de l'Église et la transubstantiation et la consubstantiation concernant les différentes interprétations. Et à un certain moment, François est venu dans mon bureau et dit, écoute, il faut réparer le WC parce qu'il y a un problème, ça ne marche plus. Il dit, écoute, je parle de temps. Il dit, non, tu dois le faire maintenant. Je dis, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas plombier. Il dit, tu dois le faire. Et au lieu de réparer le WC, j'ai pris ma voiture. J'étais en colère, je suis sorti en voiture. J'étais rouge de colère, mais j'ai dit, monsieur, tu me déranges pendant ma prédication. Et je dois me promener. Et pendant ma prédication, le Seigneur dit, maintenant tu demandes pardon. Il y a 2 semaines de cela, quand je suis revenu, je suis allé voir ma femme, je demande pardon parce que je me suis mis en colère. Elle dit, c'est bien. Et vous savez qu'il y a une puissance libératrice. Je retrouverai donc ma joie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant de prendre la Sainte Cène? Il faut demander pardon aussi. Qu'est-ce qui se passe pendant le repas? Nous nous connectons à Dieu de manière particulière. Jésus et Dieu et le Saint-Esprit sont présents de manière particulière lorsque nous allons prendre la scène. On va se connecter à Dieu. Nous déclarons aussi que nous sommes un seul corps et nous annonçons aussi que Jésus, il va revenir. Je termine. Je termine avec le témoignage d'un homme exemplaire. C'est Zinzendorf, 1700 à 1760. Le comte Zinzendorf, c'est un homme qui est très riche. Il s'est occupé des étrangers et il a aussi démarré une rune de prière 24 heures sur 24 qui a duré 100 ans. 24 heures sur 24 pendant 100 ans. Les femmes prient la journée, les hommes qui prient la nuit. Et cet homme-là, il a suscité le plus grand élan missionnaire qui a eu lieu dans l'histoire du monde. Il y a des missionnaires qui sont allés aux Antilles, au Groenland, en Laponie, en Amérique du Sud, en Australie, au Tibet, grâce à cet homme. Voilà, Zinzendorf. Un jour, il va aller dans un musée lorsqu'il avait 19 ans. Et il y aura donc une peinture de Jésus en croix et en bas, il est écrit « Voici ce que je fais pour toi et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Il va se mettre à genoux et il va rester une demi-heure à genoux. Il va se lever, il va évangéliser le monde. Il va donner ce conseil à ses missionnaires. Il dit, les païens savent qu'il y a un Dieu, mais ils ont besoin de savoir que Jésus est mort pour eux à la croix. Parle-leur de l'agneau de Dieu mort sur la croix, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus quoi leur dire. C'est beau ça. Et les missionnaires sont allés. Ils ont dit, mais Jésus, il est mort pour toi à la croix. Et la Sainte-Seine, c'est le moteur pour l'évangélisation, pour aller vers les autres. Je vous encourage cette semaine de prendre la décision d'annoncer l'évangile à vos voisins, à votre boulanger, à votre boucher. Jésus, il est mort pour toi. Je termine. C'est la troisième fois que je l'ai dit, mais cette fois-ci, c'est vrai. J'ai commencé cette prédication en parlant de repas. Je termine aussi par là. Parce que le danger, lorsqu'on est tous ensemble à la favette, c'est pendant le repas, les enfants, ils partent. Et on dit aux enfants, revenez à table. Ne quittez pas la table. Et ils vont quand même quitter la table. Parfois, il faut aller les chercher. Et je vais les chercher, je dis, mais revenez à table, maintenant, ne bougez plus. Vous restez jusqu'à la fin du repas. Et je dis la même chose à chacun d'entre vous en conclusion. Ne partez pas de la table. Restez à table. Pourquoi ? C'est la source de réconciliation, de paix, de puissance et de joie. C'est pas merveilleux ? Et Jésus dit à chacun d'entre nous ce matin, voici ce que je fais pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi ? Prions. Merci Seigneur pour ce repas que nous allons prendre ensemble. Merci parce que Jésus est mort pour moi à la croix. Et ça me donne accès à Dieu, ça me donne accès aussi à la paix. Merci pour cette victoire sur Satan, sur le péché et sur la mort. Et donne-moi Seigneur de le vivre dans ma vie de tous les jours. Veuille Seigneur nous visiter chacun. Nous avons tous des situations différentes, mais par la puissance de ton esprit, veille nous visiter, Seigneur. Veille nous pardonner aussi pour ce qui n'est pas bon dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, pour que nous puissions nous approcher de cette table avec joie. Amen.